Il était une fois, trois filles en colère qui avaient décidé de s'engager pour la société. Mais on les avait cantonnées dans des travaux bien peu passionnants. Alors moi, Vincent, j'ai décidé de les engager. Je ne le regrette pas, car ce sont vraiment de drôles de dames.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Nous sommes le mardi 2 décembre et c'est reparti pour une nouvelle émission de l'émission culte Drôle de Dame sur Fréquence 7. Nos ondes préférées parce qu'elles sont décalées, différentes et toujours pas pareilles. Alors, l'actualité, où en sommes-nous? Eh bien, elle tend toujours et encore plus à favoriser l'austérité et qui a pour conséquence le développement d'une santé morale désastreuse, un discours qui favorise les sentiments de peur, de repli sur soi, etc. Tout cela largement renforcé avec l'utilisation d'un vocabulaire guerrier depuis un certain temps déjà, mais récurrent. Souvenez-vous, Emmanuel Macron premier avait déjà parlé de réarmement démographique en janvier 2024. Désormais, tout son discours et toute sa politique tournent autour de la nécessité d'un réarmement pour se préparer à une guerre. Attention au budget à venir. Et oui, une augmentation du budget de l'armée, puis son dernier discours autour d'un nécessaire service militaire volontaire pour les jeunes. Pourquoi faire? On se le demande. En tout état de cause, une ambiance tournée vers la peur pour être développée sur tous les plateaux de télévision. Pour aboutir à une résignation, à une indifférence, pour faire en sorte que les gens, les citoyens ne s'occupent plus des affaires de la cité, c'est-à-dire aussi de leurs conditions d'existence, pour qu'ils tournoient sur eux-mêmes, pour reprendre l'expression, parce qu'il faut bien que je fasse un petit tour du côté de la philo, pour reprendre l'expression d'Alexis de Tocqueville, qui est un philosophe du XIXe siècle, ou alors pour qu'ils soient uniquement tournés vers la procuration de petits et vulgaires plaisirs. Bref, faut-il considérer que les citoyens sont résignés, dépolitisés ou indifférents à leurs affaires? Qu'il n'y aurait donc plus de prise de conscience de l'histoire politique contemporaine et donc de leur avenir? Que les gens seraient strictement tournés vers leur ego et plus intéressés aux affaires de la cité? On pourrait le croire tant les discours inacceptables conduisent à des décisions inacceptables par leur répétition et finissent par être perçus comme acceptables. Mais à y regarder de près, ce n'est pas le cas. Et non, je ne pense pas que les gens soient indifférents et ils tendent même à une appropriation d'une conscience politique de plus en plus assumée. Et surtout à une volonté de participer aux décisions politiques. C'est donc de tout cela que nous allons discuter aujourd'hui, en examinant d'abord, dans un premier temps, l'existence d'un mécanisme justement de pensée qui s'appelle la fenêtre d'Overton, hein, qui consiste à rendre des discours inacceptables en des discours acceptables. Alors justement, Vincent, tu voulais nous expliquer ce que c'est cette fenêtre d'Overton.
Tout à fait. En fait, la fenêtre d'Overton, c'est l'idée que dans une société, il y a des sujets dont on peut parler et d'autres qu'on considère trop extrêmes ou trop choquants. Les idées acceptables sont à l'intérieur de la fenêtre et celles à l'extérieur restent taboues. Mais cette fenêtre, elle peut bouger et souvent, elle bouge délibérément. Alors, comment on fait? Eh bien, on commence par lancer dans les débats une idée très radicale, presque choquante. Alors, tout le monde va réagir et parfois avec colère. Mais l'idée, elle est là et elle existe. Puis on la reformule en version plus modérée. Et à ce moment-là, du coup, elle va paraître plus raisonnable en comparaison avec la première version qui est beaucoup plus choquante. Et petit à petit, eh bien, on s'y habitue. Et c'est comme ça que la fenêtre d'Overton, eh bien, glisse en proposant progressivement des idées jusqu'à ce qu'elles deviennent discutables, puis acceptables.
D'accord, merci Vincent. Alors Claude, des nouvelles du jour ?
Oui, je vais commencer par l'Assemblée nationale. Le samedi 22 novembre 2025, défaite historique pour le cornu Macron. Après 125 heures de débat houleux, 404 députés ont rejeté la partie concernant les recettes du projet de loi de finances 2026. Un seul député pour. Ça veut dire que Macron est protégé à l'Assemblée nationale par un député. Il ne reste pas grand-chose. 84 abstentions, le texte est parti au Sénat. Donc, majoritairement de droite, le Sénat a supprimé avant-hier la contribution exceptionnelle des grandes entreprises. Perte de recettes, 8 milliards. Ils seront compensés comment? Devinez. dans sa niche parlementaire à l'Assemblée nationale, la France insoumise, le 27 novembre 2025, après une journée mouvementée, a réussi à faire voter l'adoption de la résolution contre l'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur, l'adoption de la loi pour garantir l'égalité d'accès aux services publics postaux en Outre-mer, l'adoption de la proposition pour la nationalisation d'ArcelorMittal. La famille Mittal a mis la main sur la production de l'acier en France. Elle a l'intention de délocaliser la production en Inde, au Brésil, aux USA. C'est un savoir-faire qui fout le camp. Cette victoire à l'Assemblée nationale protège la souveraineté industrielle de la France, sauvegarde le travail des 15 000 travailleurs directs et 85 000 indirects. Coût de la nationalisation, 3 milliards. La balle est dans le camp du gouvernement. Brigitte Macron, elle nous pique même les pièces jaunes. Elle a fait verser 2 millions d'euros de pièces jaunes à une association e-enfance dirigée par une amie. Les 2 millions ont servi à recruter des écoutants, acheter des bureaux flambant neufs près de la bourse. Alors que les résultats de cette association se sont effondrés de 80% à 30%. Ce détournement est-il légal ? À suivre. Docteur Folamour, devant les maires de France, le général Fabien Mandon a déclaré « Pour dissuader le régime de Moscou, ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants. » Bla bla bla, stop. Qu'il y aille à la guerre, qu'il parte avec tous les va-t-en-guerre, pas touche à nos enfants. Macron persiste. Plus de 2 milliards partent dans un service militaire, dans une logique de guerre dont les jeunes ne veulent pas. Du côté du rail, entre 2012 et 2020, 3600 km de lignes ferroviaires ont été fermées en France. Selon un rapport d'Oxfam et du syndicat Sudrail, 10 000 km de petites voies lignes pourraient fermer d'ici 2038 du fait du désengagement de l'État. C'est de pire en pire. 151 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en France en 2025. La loi travail. Conséquence de la loi El Khomri. 1287 personnes mortes du travail et au travail en 2025 depuis la suppression des comités d'hygiène et sécurité. C'est une hécatombe. Sainte-Soline. Loïc, éco-terroriste, raconte. J'ai passé 3 semaines en détention provisoire suite à la manifestation de Sainte-Soline, arrêtée par l'unité antiterroriste, accusée d'avoir, en tenue de moine, ramassé une veste de gendarme et tagué une estafette. Aucune violence ne m'est reprochée, mais j'ai eu un enferme, 6 mois de bracelet électronique, au final, après appel et remise de peine, pour bonne conduite. L'enquête de Mediapart sur la révélation des caméras embarquées est édifiante. Si rien n'est fait, il va falloir agir en conséquence. On ne peut pas laisser passer ça. J'ai une rage profonde. Suite au visionnage de ces caméras piétons, des gendarmes présents sur le site, j'ai une rage profonde d'apprendre que l'institution policière a tenté de cacher l'existence de ces vidéos. Si la justice n'est pas à la hauteur de la gravité des faits, à répondre à ces tentatives d'assassinat, je vais péter un plomb. J'ai la rage. Il a raison, Loïc. Sainte-Soline, Notre-Dame-des-Landes, mort de Rémi Fraisse, 21 ans, c'était il y a 11 ans. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve, court toujours. Un vieil Indien explique à son petit-fils que chacun de nous a en lui 2 loups qui se livrent bataille. Le premier, loup, représente la sérénité, l'amour et la gentillesse. Le second loup représente la peur, l'avidité et la haine. Lequel des deux loups gagne ? Demande l'enfant. Celui que l'on nourrit, répond le grand-père.
C'est d'une sagesse formidable. Eh bien, les nouvelles ne sont pas très bonnes, mais par contre, Claude, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellée dans ce que tu as dit, c'est justement la rage qui se transforme en une sorte d'engagement du jeune là, qui a été arrêté et qui, du coup, nous invite et même nous incombe à poser la question de savoir est-ce que le fait qu'on répande partout des idées plutôt sombres et dont cette fameuse fenêtre d'Overton sur laquelle on va reparler dans quelques instants semble rendre acceptable. Est-ce que pour autant tout cela va empêcher en fait un engagement des individus, une prise de conscience politique et même donc un réel engagement, pourquoi pas d'ailleurs dans des élections à venir? Et donc du coup, est-ce qu'on est condamné à se résigner, à être indifférent et à laisser faire? Alors moi, pour ma part, très franchement, je ne le crois pas. Sinon, ce serait trop facile. En tout cas, c'est peut-être ce qu'ils attendent, hein, mais je pense que les gens vont vraiment réagir. Alors je voudrais revenir un tout petit instant sur ce dont tu as parlé, Vincent, parce que cette idée-là de fenêtre d'Overton, qui laisse penser hein, que finalement on accepterait tout et n'importe quoi. Il faut quand même bien considérer le fait que Overton, de son petit prénom Joseph, c'était un lobbyiste. Et donc, du coup, sa fameuse fenêtre n'a pas du tout été, étudiée d'un point de vue scientifique. C'est pas du tout entré dans le monde universitaire. Et lui-même, d'ailleurs, cherchait juste un outil pour conceptualiser le mouvement des idées au sein d'une société, au sein d'un débat public. Et donc, il le fait en tant que lobbyiste. Et c'est dans les années 90, d'ailleurs, hein, ça correspond bien à un moment politique intéressant, qui correspond bien à la ligne politique des lobbyistes, d'ailleurs. Et au fondement de cette fenêtre d'Overton, il y a une question, finalement, qui est posée, c'est qu'est-ce qu'on peut dire dans une société sans être immédiatement disqualifié, mis de côté. Et donc, par conséquent, c'est là où il va exister cette espèce de mécanisme dont tu as très bien parlé, Vincent, tout à l'heure. Mais, encore une fois, il n'y a pas d'études scientifiques établies à propos de cette fenêtre d'Overton. Par contre, il y a des outils apparents hein, qui l'ont été dans la psychologie sociale, tels que ce qu'on appelle les biais cognitifs, hein, c'est-à-dire c'est des biais de la pensée qui ont abouti en fait à la démonstration d'une reconnaissance qu'une répétition d'une idée permet l'acceptation de cette idée et la rend acceptable. Et ce, si on y ajoute une sorte de phénomène de contraste, hein, c'est-à-dire qu'on va mettre en place une idée tellement choquante que dès qu'on prendra une idée un peu moins choquante, alors par contraste, et évidemment une fois répétée, eh bien cette idée sera rendue acceptable. Et donc du coup, la fenêtre d'Overton, petit à petit, donc, glisse, comme tu l'as bien dit tout à l'heure, Vincent. Et par exemple, s'agissant des idées réactionnaires, qui sont de plus en plus présentes dans le champ politique et un peu partout en France, mais pas que, l'application donc de la fenêtre d'Overton, elle a été essayée en quelque sorte avec l'entrée en politique de Zemmour. Hein, si on prend un exemple, on peut prendre cet exemple-là, et l'entrée en politique de Zemmour va donc permettre de rendre Marine Le Pen plus modérée, et donc on va retrouver cette espèce de mécanisme. Par exemple, si on prend l'exemple du grand remplacement, au début, le concept de grand remplacement a été discuté dans des cercles assez fermés et a abouti d'ailleurs à des discours très choquants et qui, dans un premier temps, n'étaient pas fondamentalement acceptés. Puis Marine Le Pen, elle, a remplacé en fait ce terme-là par un terme, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui est utilisé, par la submersion migratoire. Et ce terme-là a été repris par Bayrou, qui se dit du centre. Donc, du coup, de l'expression du grand remplacement choquante à celle de submersion migratoire, celle-ci, elle est rendue moins choquante, et du coup, elle est devenue acceptable. Et elle l'est d'autant plus devenue quand, effectivement, on a retrouvé cette expression dans la bouche de Bayrou. Donc, du coup, bah, ça a rendu Marine Le Pen beaucoup plus soft. Alors, ça, c'est vrai pour cet exemple-là, mais il en existe plein d'autres, et je crois que, Vincent, justement, tu voulais en évoquer.
Bah, tout à fait. Quand on prend l'exemple, par exemple, des discussions autour des lois sécuritaires, il y a 10 ans de ça, on ne parlait pas de lois sécuritaires, c'est des choses qui étaient très taboues, on n'en débattait pas sur le plateau télé, on ne pouvait pas en parler, et aujourd'hui, On a l'Alexandrin qui a commencé à en parler, ça a choqué. Ils ont, comme je l'expliquais, ils ont reformulé, ils ont adapté leur discours. Et maintenant, on en arrive à un point où ça devient tellement acceptable que des, j'ai envie de dire, des politiques qui, à la base, étaient considérées comme convenables, donc de, chez les Républicains, donc de la droite, des gens comme Bruno Retailleau, par exemple, ou encore Laurent Wauquiez, ben, se mettent à reprendre des thèses et à mettre en avant des projets de loi sécuritaires. Et en fait, une droite qu'on considérait avant comme juste de droite, eh bien, c'est une droite qui devient radicale, extrême. Et en fait, l'extrême droite devient plus gentille, et la droite traditionnelle devient plus extrême et plus méchante. Et on devient à se dire, en fait, c'est quoi la vraie droite? C'est le RN? C'est LR? On ne sait plus trop, parce qu'avec toutes ces montées de discours, on ne sait plus trop où donner de la tête.
Ok, donc du coup, on peut dire, hein, en un sens, que le principe, je ne sais pas comment dire les choses, de cette fenêtre d'Overton, c'est de tenter d'empêcher une réelle réflexion, et avec elle, le discernement du vrai et du faux. Et c'est là que ça commence sérieusement à poser problème, et notamment quand on associe à tout cela des discours qui font surgir des sentiments de peur ou des sentiments d'insécurité, comme on en est abreuvé sur tous les plateaux de télé en ce moment. C'est-à-dire que finalement, on finit par jouer sur l'émotionnel, et par conséquent, la capacité justement de, qui est au fondement de toute réflexion d'ailleurs, hein, la capacité de discerner le vrai du faux est un peu altérée. Et c'est d'autant plus vrai que, justement, les idées réactionnaires dont on a parlé, et notamment la théorie du grand remplacement, elle est fondée elle-même, hein, sur des rumeurs, en fait, en quelque sorte. Et il n'y a jamais eu une recherche scientifique, il n'y a jamais eu une vérification scientifique des données démographiques, par exemple. Et, mais ça passe, très tranquillement, ça passe. Alors du coup, ce qui peut être craint, c'est le fait que de la fenêtre d'Overton, on passe petit à petit à l'ère de ce qu'on va appeler la post-vérité. C'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter en quelque sorte de rendre acceptables des idées qui ne l'étaient pas, mais on va carrément s'affranchir du réel et produire littéralement des discours qui n'ont plus de lien avec le réel. Et là, bah, je vais reprendre l'exemple d'un individu qu'on peut qualifier de littéralement d'extrême droite, de Trump, qui, pendant son premier mandat, a menti plus d'une dizaine de fois par jour. Hein, il a fait campagne là-dessus. C'est-à-dire que c'est un individu qui n'a que faire, du réel. Donc, l'ère de la post-vérité, bah, c'est bien le moment où, à force d'être abreuvé de mensonges, bah, tout se passe comme si les citoyens abdiquaient, parce que justement, ils ne parviennent plus à discerner le vrai du faux. C'est-à-dire comme s'il y avait une forme de tolérance du faux qui s'imposait. Hein, et donc, du coup, ben, ça donne quasiment une indifférence au vrai. Hein, et c'est là où ça devient très, très problématique et dangereux, parce que ben, ce que Trump a dit, hein, dans ses discours, précisément, il l'a fait.
Juste un exemple, Trump s'est permis de citer en disant que toutes les femmes enceintes qui prenaient du paracétamol pendant leur grossesse, ça apportait des fortes chances d'avoir un enfant autiste. Et du coup, ça a amené des femmes à avoir des comportements, des femmes enceintes à avoir des comportements dangereux au niveau de leur grossesse. Et en fait, sur des choses qui sont très médicales et justifiées et prouvées par la médecine, bah en fait, il amène des gens à faire des comportements honteux, comme dire aux gens, prenez buvez de la javel pendant le Covid pour passer le virus. Enfin, c'est dangereux, c'est honteux, quoi.
Tout à fait. Alors, cela dit, une fois qu'on a dit tout ça, moi, je pense que si ça peut fonctionner chez les individus peureux, hein, parce que c'est un peu le problème, le sentiment de peur provoque une espèce de paralysie et les gens, finalement, peuvent effectivement se laisser faire. En tout cas, ça ne fonctionnera, à mon sens, vraiment pas chez tout le monde, et notamment chez les jeunes générations, parce que, précisément, le fait de mentir, de s'affranchir de la réalité ne fait pas oublier les conditions réelles d'existence dans lesquelles les individus vivent. Et en l'occurrence, si je me tourne du côté de la jeunesse, ils traversent tous des difficultés, parce que d'abord ils voient leurs parents souvent en difficulté financière, ou en tout cas quand ils ne le sont pas trop, et quand ils ont un travail, eh bien parfois leur santé justement morale n'est pas au beau fixe, parce que précisément les conditions de travail ne sont pas terribles. On parle de plus en plus de souffrance au travail, de burn-out, et vous allez voir que quand on va commencer à se tourner justement et à mener des enquêtes à ce propos, ça va être effarant. Et donc tout ça, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs le vivent. Donc au bout d'un moment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les individus, les politiques, ils auront beau tenter d'expliquer que c'est la faute de machin, qu'il faut avoir peur, que la solution, on va la trouver dans justement le fait d'envoyer, pourquoi pas les jeunes faire leur service militaire, on reviendra là-dessus après, ça ne marchera pas du tout. Parce que précisément, toutes ces conditions d'existence sont effectivement en dégradation. Et puis, si on regarde historiquement parlant, le peuple français s'est jamais laissé faire, quoi, dans une certaine mesure. Claude, justement, tu voulais rappeler, par exemple, il y a quelque temps, le mouvement des Gilets jaunes.
Oui, c'est vrai que les Français ont réagi. C'était en 2018, hein, c'était un an de Macronie, alors que là, on en est à 8 ans. Et on a encore un an et demi à souffrir. C'est vrai que le peuple de France a réagi, est sorti dans la rue, mais pour le faire rentrer à la maison, la solution trouvée par Macron, c'était la violence institutionnelle. Il y a vraiment eu des horreurs qui ont été faites au nom de la République, et ça, je trouve ça absolument lamentable. Mais je pense que c'est pas fini. Avant qu'il ne s'en aille, il y aura d'autres réactions du peuple.
Oui, parce que pour autant, moi j'entends très bien ce que tu évoques, cette peur de la répression qui fait que les individus vont hésiter effectivement à manifester, et l'aspect financier aussi qui peut empêcher les individus de se mettre en grève. Ça c'est évident. Mais en même temps, c'est pas parce que les individus vont en quelque sorte rester entre guillemets silencieux qu'il n'y a pas la prise de conscience politique. Parce que franchement, moi, je reste persuadé que la fabrication des inégalités toujours plus fortes, hein, on le voit bien là, à l'état actuel des choses, produit en même temps, justement, la conscience de ces situations. Et donc, à un moment donné, il va y avoir une petite étincelle qui fait que, à mon sens, hein, les individus vont réagir. Et moi, il y a un certain point sur lequel je voudrais discuter, puis du coup, Vincent, tu vas peut-être pouvoir rebondir là-dessus. C'est justement l'annonce de Mandon à propos de sa phrase, justement, choc, hein, qui consiste à dire qu'il faut se préparer à sacrifier les jeunes générations. Ça passe pas. Hein. Et c'est tant mieux. Enfin, pour le coup, c'est tant mieux. Parce que d'un coup d'un seul, tout se passe comme s'il allait y avoir la prise de conscience du fait que, non, quoi. En fait, une autre vie est possible, une autre société est possible, faite de bonheur, de joie, et tournée autour de la solidarité, quoi. Alors justement, Vincent, je crois que tu voulais nous parler d'un artiste engagé et qui a beaucoup d'ailleurs d'impact auprès des jeunes et qui fait prendre conscience, et même de manière très 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 profonde, justement de ces questions politiques.
Tout à fait, voilà, en fait, il y a des artistes qui chantent et il y a ceux qui s'engagent. Et moi je vais vous parler de Medine. Medine, lui, il fait partie de ceux qui transforment la musique en lutte, le micro en outil de conscience. Lui, son terrain de jeu, ce n'est pas seulement la scène, c'est aussi la société. Depuis plus de 20 ans, il rappe les fractures de notre époque, les colères, les espoirs, avec une conviction claire. La jeunesse n'est pas un problème, elle est la solution. On l'a souvent catalogué, critiqué, attaqué. Même on y allait jusqu'à interdire des concerts qu'il faisait dans certaines villes. Mais Medine continue. Il persiste, il avance, parce qu'il sait que lorsque le rap devient politique, lorsqu'il se frotte au réel, il dérange. Et déranger, c'est déjà faire réfléchir. Et dans ses textes, on va entendre la banlieue, la mémoire coloniale, les injustices sociales, la religion, l'identité. Et Medine n'est pas seulement un observateur, il est un témoin. Il raconte ce qu'on préfère souvent taire. Il ne cherche pas le consensus, il cherche la vérité. Et dans cette vérité, Et cette vérité, il l'apporte avec pédagogie. Il nous donne pas des leçons, mais il tend la main. Ses concerts, ça ressemble un peu des fois à des amphithéâtres. On est un peu comme ses élèves à écouter un cours. On débat, on réagit. Et ça, c'est hyper intéressant. Medine, il sait que la jeunesse, elle est souvent laissée de côté et réduite à des statistiques. Et lui, il l'invite à prendre la parole, à s'informer, à militer, à voter, à rêver plus grand que soi. Et il le fait souvent sans donner d'étiquette, sans imposer un camp. Et son message, il est clair. C'est pense par toi-même, mais pense, agis, ne laisse personne décider à ta place. Et c'est là sa force. En 2025, alors que la politique est souvent perçue comme lointaine, opaque ou même hostile, Medine remet du cœur là-dedans. Il ramène les mots de la cité dans l'histoire du pays. Il fait de l'engagement un acte de création. C'est presque une forme d'amour. Et justement, l'amour. Dans le spectacle La haine, tiré du mythique film de Mathieu Kassovitz, réadapté 20 ans plus tard en comédie musicale, il y a un titre qui résume parfaitement son approche, l'amour. Un titre qui tombe comme une réponse, comme un antidote. Parce que face aux crispations, face aux divisions, Medine rappelle que l'amour n'est pas un sentiment naïf. C'est une force, un choix, un acte courageux, un acte politique même. La haine nous montre la société telle qu'elle est. L'amour nous montre ce qu'elle pourrait devenir. C'est tout le paradoxe, toute la beauté de Medine. Utiliser la colère pour fabriquer du lien, transformer le combat en espoir, faire de la musique, un point de rencontre.
Merci Vincent. Donc on va écouter avec attention justement le morceau de Medine. Et en attendant, on se quitte pour cette fois-ci et on se dit à bientôt.
À bientôt.
À bientôt, merci Sylvain.
C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute.
Regardez comment il chie dans son froc.
C'est l'atterrissage.
Si je shoot en bleu, tout ça va sûrement finir en émeute. Les publics rentreront chez eux en se disant on est neutre. Tout ça m'émeut, mais j'ai choisi de partir sans faire le haineux. Car on ne coupe pas la ficelle tant qu'on peut défaire les nœuds. Mesdames, messieurs, les théâtreux, spectatrices et spectateurs, ce sera jamais nous contre eux. Les mauvaises herbes sont des fleurs, on n'a pas besoin de thérapeutes. Un comédie club dans le cœur, si on écrivait la N2, ce serait la cité de la peur. Nos vies des films d'horreur quand on les regarde en gros plan. En dézoomant, des films d'amour et des bromances. J'ai vu mon reflet dans leurs insignes. J'ai su que le vilain petit canard était un signe. C'est nous la France périphérique, toujours au centre du débat. On rend le pays féerique avec les centres de Demba. Quand on fait la une de l'équipe, on est des fiertés nationales. Mais dans les contrôles de routine, on est des ramasseurs de balles. Mais tu veux savoir c'est quoi le comble? C'est que ce soir on fait ça le comble. Mais que demain, face aux gendarmes, ça peut vite tourner au drame. Parce que quand un Français est con, on dit que c'est un sale con. Mais quand un Arabe joue au con, on dit que c'est un sale Arabe. Et lorsqu'un flic tue un Noir, les racistes appellent ça du sport. Et quand un Noir pousse un keuf, ils parlent tout d'animaux féroces, d'indigènes antéennes Lacoste qui volent aux Français leur travail. La violence a plusieurs visages, celle d'un flingue ou celle d'une cravate. Frère, faut qu'on tempère, tourner le dos à l'ouragan ne nous sauvera pas de la tempête. Tant qu'on ne videra pas nos placards de nos squelettes, tant qu'au lieu de mener des enquêtes, on partira mener des quêtes. Je prendrai pas de pincettes, encore moins de pense-bêtes. On ne guérit pas du Tiex même sous opération place nette. Tant qu'on ne renversera pas la pyramide, tant qu'on ne regarde la banlieue que par la lucarne des vrilles, tant qu'ils enjamberont les corps avec des dossiers sous le bras, tant qu'on aura des nœuds au ventre quand on voit l'origine du coupable, tant qu'on étalera le casier d'un cadavre encore chaud, tant qu'on n'arrêtera pas de voir comme un spectacle les talk shows, tant qu'il y aura des mères qui ferment le couvercle du cercueil, tant qu'il y aura des pères en deuil qui perdent un œil dans les immeubles à cause d'un tir-erreur, d'un bon tireur sur un ancien tirailleur, un militaire devenu ferrailleur, devenu de la chair à bailleur. Tant qu'ils s'en prendront au raisonneur, avant de s'en prendre au raisonnement, on n'ouvre pas la porte du vivre ensemble avec une clé d'étranglement. On n'est pas le pays des lumières avec un taser électrique et cassé du fonctionnaire. Et ben ça n'a rien d'érectile. On perd le nord, on perd le fil. On crée pas de lien, on racialise. On se voit plus. plus qu'en noir et blanc, comme dans le film de Kassovitz. On nage en pleine cassosserie. Comment expliquer aux kids que la patte patrouille dans la vraie vie tire sur la carrosserie? C'est l'histoire d'une société qui chute à l'horizontale. L'important c'est le parachute, quel que soit l'atterrissage. J'ai mis la culture de la rue dans la France et son pactage. Car pour pouvoir former la lune, faut que tous les quartiers se rejoignent. On chanterait presque la Marseillaise avec Jules, avec Ayam. Le bruit des copes de supporters, ça étouffe toutes les calaches. On aime la garde républicaine quand elle chante avec Aya. On hait les gardiens de la paix quand ils shootent les canaques. Quand ils compressent les thorax de Cédric et d'Adama. Que sans les images des dashcam, on ne saurait rien des causes du drame. Alors on se fout de leur morale, des humanistes à deux balles. On s'aimera jusqu'à ce que la prochaine polémique nous sépare. Faut qu'on brise le narratif, que tout le monde retrouve ses esprits. Que quand la presse déshumanise, c'est l'espèce qu'elle déshumanise. Et que le chef de police est sûrement un chef de famille. Et que le petit dans la street a sûrement pas choisi d'y vivre. Qu'oublié, un crime est un crime. De belles dramas, où c'est qu'il. On va tous finir par ce qu'il. Alors j'ai plus qu'une chose à dire: l'amour.